À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, c'est la fête de la croix glorieuse de notre Seigneur et j'en profite pour vous parler d'un Québécois, Michel Verret, qui est né à Québec et qui est mort en 1997. C'est le fondateur, justement, du monastère de la croix glorieuse en 1980. Monastère qui est aujourd'hui établi depuis le début des années 90 à Sainte-Agnès, dans le comté de Charlevoix, dans un endroit magnifique sur un promontoire d'où on voit le fleuve, c'est fort agréable. Le monastère est vraiment une merveille, c'est une petite merveille que ce monastère, humble, simple, où habite les petits frères de la Croix, donc fondés par le père Michel Verret. Sainte Agnès s'appelle ainsi, ça célèbre les vertus d'une jeune martyre romaine qui a vécu à la fin du IIIe siècle et au début du XIVe siècle, qui nous rappelle un peu une sainte contemporaine, car à l'âge de 13 ans, elle a préféré la mort à la perte de sa virginité. C'est une attitude à cette époque qui fait bientôt d'elle le symbole de la pureté qui était si peu connue dans une civilisation très décadente, la civilisation romaine comme est la nôtre aujourd'hui. Sainte Agnès aurait été martyrisée le 21 janvier de l'an 304, et c'est la raison pour laquelle on la célèbre le 21 janvier. Je vous en ai déjà parlé il y a déjà plusieurs années. Selon une ancienne tradition, la veille de sa fête, c'est intéressant, on pourrait faire ça dans la région de la ville du village de Sainte Agnès, où il n'y a guère qu'à peu près 650 personnes. Les jeunes filles qui ont conservé leur pureté, évidemment, peuvent connaître toutes sortes de grâces, dont celle en particulier de savoir qui sera leur mari. Le village de Sainte-Agnès est établi dans une région vallonnée. L'altitude moyenne de ces jolies collines atteint 450 mètres, ce qui est quand même considérable, hein? Et Sainte-Agnès est parsemée donc de dépressions puis de collines qui se succèdent avec régularité entre Notre-Dame-des-Monts puis Saint-Irénée, là, à moins de 10 kilomètres à l'ouest de la Malbaie. Et c'est vraiment un endroit à voir, à visiter, à cause justement de ce monastère fondé par le père Michel Verret. Il a donc conçu son monastère dans le calme et la paix, le silence, la solitude, le recueillement, la prière. C'est ça qu'on peut trouver et vivre sur cette sainte montagne, comme il l'appelle, à l'hôtellerie du monastère des Petits Frères de la Croix, très charmante hôtellerie. Je vous conseille fortement de vous y rendre un jour. Ça vaut la peine. C'est à Sainte-Agnès de Charlevoix, donc. Et je vous donnerai à la fin, j'espère y penser, vous donner le numéro de téléphone. Les Petits Frères de la Croix forment une communauté, donc, monastique cloîtrée, qui a été fondée le 8 juin 1980 avec l'approbation, évidemment, de l'archevêque de Québec. Ils vivent de la spiritualité du frère de Foucault, auquel était fortement attaché le père Michel Verret. Charles de Foucault, dont je vous parlerai le 1er décembre comme d'habitude, ce moine qui était un des grands, grands, grands convertis de la fin du siècle dernier, s'est converti en confessant ses fautes à un prêtre, l'abbé Huvelin, auquel j'ai d'ailleurs consacré une émission. Il s'est fait moine au désert du Sahara, dans une humilité totale, dans un don de lui-même tellement extraordinaire comparé au désordre de sa vie antérieure qu'on reste stupéfait. Toute la vie des petits frères de la Croix à Sainte-Agnès de Charlevoix est orientée sur le culte et l'adoration de l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'Eucharistie, la messe, c'est le centre et le sommet de la vie chrétienne. C'est le moment où l'âme rencontre, dans l'adoration, Dieu notre Père, en s'unissant, comme je vous le répète souvent, au Christ vivant dans l'Eucharistie, dans l'unité de l'Esprit-Saint. On ne saurait jamais assez répéter ça, pour que les gens puissent enfin comprendre, de plus en plus, combien est important d'aller à la messe le dimanche. Et que si on peut, combien il est aussi très important d'y aller tous les jours. Dans ce monastère, on a une iconostase, c'est-à-dire un mur d'icônes, derrière laquelle se célèbre la Sainte Liturgie. C'est la liturgie latine, mais à l'occasion, c'est la liturgie byzantine, selon la tradition orientale, de certains de nos frères orthodoxes qui sont unis à nous dans l'Église catholique, qui ont amené avec eux leur tradition, le Vatican leur demandant de ne rien quitter de leur sublime tradition. Et ces catholiques de rite byzantin sont au fond, dans la difficulté, une préfiguration de l'union à venir des églises orthodoxes et de l'Église catholique. Ils sont de nombreux groupes au sein de l'Église catholique. Alors la liturgie byzantine, dans ce monastère des petits frères de la Croix, est célébrée occasionnellement. Ça se veut évidemment un moyen pour eux de contribuer à l'avancement de l'écuménisme. Leur vie de silence, de prière, de solitude, de travail, c'est un engagement de tout leur être. J'y suis allé deux fois avec grand joie. Encore récemment, j'y étais au mois de juin. Ils veulent donner au monde, dans un amour universel, ce qu'il y a de meilleur, ce dont le monde a le plus besoin. Le monde a le plus besoin de Dieu. C'est le petit frère Prière, justement, qui disait que la transparence de ta vie montre celui qui t'habite et qui aspire si intensément à faire sa demeure dans le cœur de tout homme. Alors on nous invite franchement à aller à cette hôtellerie, participer aux offices, et on peut faire une réservation en communiquant avec le petit frère hôtelier, on dit toujours le petit frère, à 1-418-439-4611. 1-418-439-4611. Pourquoi s'attacher ainsi à la croix glorieuse que l'Église célèbre aujourd'hui en donnant le titre de monastère de la Croix glorieuse? C'est que la fête de la Croix glorieuse, tout d'abord, a une histoire. Vous savez que c'est Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, qui a retrouvé la croix du Christ. Et on a élevé une basilique à l'endroit, à Jérusalem, où on a retrouvé la croix. Et le 14 septembre, bien, on célèbre d'abord l'anniversaire de cette découverte et aussi de la dédicace de cette église à Jérusalem en l'an 335. Mais le souvenir d'un autre événement est venu s'y ajouter, c'est que le roi d'Iran, ou le roi de Perse, comme on disait dans ce temps-là, conquiert Jérusalem vers l'an 615, avant l'apparition de Mahomet et de l'islam. Et il emporte la relique de la Sainte Croix. 14 ans plus tard, toujours avant l'apparition de l'islam, qui va apparaître quelques années plus tard, vraiment, l'empereur Héraclius réussi à vaincre le roi de Perse et à le chasser. Et puis, il exige la restitution de la croix. Héraclius, l'empereur, veut la remettre lui-même à l'endroit où se trouvait auparavant cette croix. Et alors, pour la cérémonie, ben il revêt tout naturellement des vêtements somptueux, puis il est couvert de pierreries. Il la prend sur ses épaules. Mais une tradition nous rapporte qu'il a été arrêté par une force qu'on appelle invincible. Et l'évêque de Jérusalem lui en donne la raison. Il lui dit, « Vous n'imitez pas assez la pauvreté et l'humilité de celui qui a porté cette croix. » C'est ce qu'il lui dit. Alors l'empereur, qui comprend très bien, qui est un bon chrétien, revêt un manteau bien ordinaire. Il enlève ses chaussures. Il fait un peu comme saint François d'Assise va faire dans quelques années, dans quelques siècles. Et c'est comme ça qu'il réussit à avancer sans plus de difficultés. En somme, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est le sens de la lecture aujourd'hui de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, qui est au cœur des petits frères de la croix d'ailleurs, à sainte Agnès de Charlevoix. Je vous lis ce beau texte qui est dans la liturgie d'aujourd'hui. C'est la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, donc au chapitre 2. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Comme Héraclius, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Et c'est pourquoi Dieu son Père l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Donc le fondateur des petits frères de la croix de sainte Agnès de Charlevoix est décédé à 58 ans, le 23 août 1997. Il avait comme nom de religion le Père Michel-Marie de la Croix. Il a beaucoup souffert avant de mourir. Il a dû démissionner de son poste. Mais c'est surtout les souffrances morales et les souffrances physiques furent dramatiques. Et je crois que tout le Québec peut rendre grâce à Dieu pour le passage parmi nous de cet homme remarquable et pour demander au père de Foucault, auquel il voulait ressembler un peu, de nous renouveler dans notre vie de prière et d'adoration semblable à celle de Jésus à Nazareth, en communion avec le Père Michel-Marie de la Croix, Michel Verret, qui l'a désormais rejoint, n'est-ce pas, au ciel, afin de continuer, selon l'expression de sainte Thérèse d'Enfant Jésus, à faire du bien sur la terre. Michel Verret est né le 24 avril 1939 à Québec. Il est ordonné jeune le 4 juin 1966. Il a d'abord fait partie de la fraternité sacerdotale fondée par le père Eugène Prévost. L'émission la dernière émission du mois de septembre 1999 sera consacrée au père Eugène Prévost, justement. Progressivement, Michel Verret, l'abbé Michel Verret, ressent au fond de lui-même un appel très fort à la vie d'ermite. À l'exemple de Charles de Foucault, qui a été ermite au désert. Cet appel est monté dans son cœur, très brûlant. Et c'est au début des années 70 qu'il reçoit la permission du cardinal Maurice Roy, alors archevêque de Québec, d'entrer finalement en ermitage. Assez étonnant, n'est-ce pas? C'est une expérience qui va durer 7 ans. 7 ans d'érémitisme. Jusqu'à la fondation des Petits Frères de la Croix en 1980. À Valcartier, près de Québec, quoi. Ils vont demeurer, au début, à Saint-Gabriel de Valcartier, pendant 5 ans. Cette petite communauté. Ensuite, la communauté vit un premier déménagement à Saint-Augustin de Desmaures, où déjà il commençait à être connu, pour s'y installer pendant 6 ans. Le 13 juin 1991, c'est un grand jour pour Michel Verret, car il y aura le déménagement dans le nouveau monastère de Sainte-Agnès, avec l'aide de 75 personnes, ça prenait beaucoup de monde. Le père Michel Verret a appris à connaître le frère Charles de Foucault, Charles de Jésus, par l'entremise d'un jeune Arménien qu'il avait rencontré à Rome pendant ses études, car Michel Verret a fait de très bonnes études à l'université grégorienne durant le Concile Vatican, donc au début des années 60. Dès le début de sa vie religieuse, il avait fait part à un corréligionnaire de son rêve de bâtir un monastère avant, quand il est entré à fraternité sacerdotale. Il voulait fonder un monastère un jour peut-être, dont les moines arboraient sur leur poitrine le cœur et la croix rouge que portait Charles de Foucault. Et c'est ce qu'ils portent, les petits frères de la croix. Est-ce que c'est une prémonition? En tous les cas, son rêve de jeune homme s'est réalisé. Et toujours est-il que 40 ans plus tard, ce même corréligionnaire qui avait entendu ce rêve de la bouche de Michel Verret est venu pour la première fois sur cette sainte montagne de Sainte-Agnès, où le monastère est maintenant construit, n'est-ce pas, au comté de Charlevoix, puis il n'a pu retenir son émotion, évidemment, de voir le grand rêve réalisé. Michel Verret avait le plus profond désir de faire régner Jésus et la charité sur les pas du frère Charles de Foucault. Est-ce que c'est un hasard si tous les deux sont morts à 58 ans, comme le grain de blé qui doit être enfoui pour porter du fruit selon l'Évangile, que le père Michel avait lui-même choisi pour ses funérailles, car il savait bien qu'il allait mourir, hein? Il souffrait tellement. Il a été très malade. C'est jeune, 58 ans, n'est-ce pas? On sait comment Charles de Foucault avait confiance et conscience de cet anéantissement nécessaire, qui est, selon lui, le plus puissant moyen de s'unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. L'anéantissement. C'est un désir qui habite beaucoup de gens qui deviennent des propagateurs de l'Évangile. Voyons la vie du curé d'Ars, qui cherchait à s'enfuir pour s'anéantir dans une trappe. C'est un désir si profond qu'il est très difficile d'y résister. Et la plupart des gens qui sont pris dans l'évangélisation ont ce rêve qui les habite. C'est un mystère de la fécondité de la vie cachée dans la solitude, le silence. Les 4 dernières années de la vie du père Michel Verret ont été marquées par la maladie et des épreuves intérieures terribles. On peut dire que ces épreuves le configuraient toujours davantage à Jésus-Christ lui-même, son modèle unique, comme le disait Charles de Foucault, modèle unique. Il a été fidèle à se laisser identifier au Christ souffrant qu'il considérait dans le langage mystique comme son époux, l'époux de son âme, malgré les répugnances inévitables de la nature, évidemment. Ça l'a entraîné à suivre donc le frère Charles de Foucault sur le chemin du vide intérieur. Le chemin du vide, parce que c'est le moyen pour laisser toute la place à Dieu. À Dieu seul qui, dans la nuit obscure, comme en parle si bien saint Jean de la Croix, continue à plonger les racines de son œuvre immense dans une âme de plus en plus prête et consentante. Le 16 octobre 1993, le père Michel Verret est hospitalisé suite à une thrombose cérébrale. Son côté gauche est paralysé. Et là, il va connaître une période de réadaptation complexe pour retrouver l'usage de tous ses membres. Il faut vous dire que c'était un prédicateur admirable. Il a laissé des cassettes que l'on peut se procurer au monastère des Petits Frères de la Croix de Sainte Agnès. Mais on peut se procurer aussi une des plus belles cassettes du père Michel Verret, intitulée « La Sainte Face ». Elle date de 1981. C'est sublime. Vous pouvez vous la procurer chez les adorateurs de la Sainte Face, probablement. Je crois qu'ils en ont des copies. Ils sont situés au 76-13 de l'avenue Christophe Colomb, mais je vous donne le numéro de téléphone pour commander au besoin une cassette audio de Michel Verret parlant de la Sainte Face. C'est 2 à Montréal, 274-1654. Je le fais exceptionnellement parce que c'est vraiment remarquable. Je l'ai réécouté encore. Je l'ai réécouté très souvent, cette cassette. C'est sublime. Le 9 février 1994, quelques mois après son hospitalisation, il retourne de façon définitive, le père Michel Verret, au centre François Charon à Québec, où il a bénéficié des traitements de réadaptation suite à la paralysie de son côté gauche. Et le 21 avril 1995, Monseigneur Couture, archevêque de Québec, nouvel archevêque de Québec, vient au monastère et il vient donc au monastère pour la visite pastorale qu'exerce Don Fidèle Sauvageau, l'ex-abbé de la Trappe d'Oka, pendant 25 ans. Et il annonce, Monseigneur Couture, que le père Michel a remis sa démission comme prieur. Il y aura donc une élection dans le cadre du premier chapitre des Petits Frères de la Croix au cours de l'été, et l'archevêque consulte les Petits Frères prophètes afin de nommer un prieur par intérim. Et c'est presque ainsi la fin de la vie de Michel Verret. Alors, le pauvre père Michel Verret, dont je vous parle aujourd'hui, homme extraordinaire de foi, homme qui avait des charismes exceptionnels, qui a été très actif dans le renouveau charismatique à Québec, qui a suscité beaucoup de centres de prière et de groupes de prière, qui a su réunir autour de lui les petits frères de la croix qui l'ont accompagné comme moine contemplatif centré sur l'Eucharistie, sur la messe. Eh bien, il donne sa démission, donc en 95, au mois d'avril, et le mois suivant, au début du mois, c'est le départ de ce père Michel Marie de la Croix pour la résidence cardinal Vachon à Québec. Le père Michel annonce le résultat de l'élection qui s'est faite pour le remplacer, et c'est le petit frère Jean Guildeau du Sacré-Cœur qui va agir comme prieur par intérim et le petit frère Sylvain de la Transfiguration comme sous-prieurs. Le 10 août 1995, c'est l'élection du nouveau conseil monastique de la communauté qui est présidé par le nouveau prieur, donc le petit frère Jean Guildeau du Sacré-Cœur. Le 17 juillet 1997, le père Michel séjourge au monastère jusqu'au 17 août, jusqu'à la veille de sa mort, car le 23 août 1997, donc 6 jours plus tard, c'est, comme on dit, le retour à la maison du père, du fondateur, le père Michel-Marie de la Croix. Il meurt donc à 58 ans, comme je vous l'ai dit. C'est 5 jours plus tard, le 28 août, qu'ont lieu les funérailles du père Michel en la paroisse Saint-Ambroise de Loretteville, à 11 heures. Monseigneur Maurice Couture a présidé la célébration en présence de plus de 70 prêtres et de 700 fidèles. Puis, le surlendemain, le 30 août 1997, ce sont les funérailles du père Michel, cette fois-ci dans son monastère, à 10h30 le matin, et l'Eucharistie est présidée par le petit frère prieur Jean Guildeau du Sacré-Cœur, devant plus de 250 personnes. La cérémonie est suivie de la procession jusqu'au cimetière de la communauté où le corps de ce grand fondateur, je vous assure c'est un grand fondateur, où le fondateur est inhumé. J'ai vu son tombeau, c'est très sobre et très beau. C'est quelque chose à voir, je vous le conseille. Au funérailles, il y a eu beaucoup de déclarations qui ont été faites, qui étaient très intéressantes. Mais on peut, si vous voulez bien, citer une lettre du 10 juillet 1997, donc le mois avant sa mort, une lettre du père Michel de la Croix à son frère Bruno Verret. C'est au terme des funérailles, célébrées donc à Loretteville le 28 août 97, que Bruno Verret ajoute quelques commentaires personnels qu'il présente sous le titre « Je me rappelle ». Voici les derniers paragraphes. Cet homme simple dit donc « Michel est allé passer le dernier mois au monastère des Petits Frères de la Croix. On s'appelait, puis je lui disais « Tu vas faire exactement ce qu'on te demande de faire ». Ce que Dieu te demande de faire, Michel, par rapport au petit frère de la croix, c'était l'abandon. Alors Michel m'a remis, dit le Bruno Verret, une lettre, une semaine avant de partir pour aller au monastère des petits frères de la croix. Et cette lettre-là, il me l'a remise et il m'a dit, « Bruno, mon frère, tu m'as toujours dit de m'abandonner, puis d'avoir un désir. » D'avoir un désir, un seul. Parce que souvent je disais à Michel, dit Bruno, Michel, peut-être que le Seigneur te demande d'agir différemment. Parce que le frère Michel Verret apportait beaucoup de soutien à des gens à la résidence Cardinal Vachon. Et lorsqu'il est revenu de son mois, il m'a téléphoné, dit Bruno Verret, car il devait venir souper chez nous. Il m'a dit, « Bruno, j'ai compris ce que tu me disais tout le temps. J'ai lâché prise. Oui, j'ai lâché prise et je me suis abandonné. » Et le lendemain soir, on a appelé chez nous, dit Bruno Verret, pour me dire que mon frère Michel était mort. Et j'aimerais ici vous lire la lettre que Michel m'a laissée, probablement parce qu'il savait que ses jours étaient comptés. « Béni soit-il à jamais le très bon et très doux Sauveur, qui a fait de si grandes choses avec ce qu'il y avait de plus petit. » En cette époque de l'histoire de l'Église et du monde, et je le supplie de me faire miséricorde et de me pardonner mes si nombreuses infidélités, mes manques de correspondance à la grâce et tout le reste, à mes lâchetés, mes peurs, mes manques de foi et de courage lors de grosses épreuves. Je n'ai pas assez aimé. Je n'ai pas assez aimé et Dieu et les autres. C'est là le plus gros péché de ma vie. Priez, vous qui m'avez aimé, pour que Jésus miséricordieux me pardonne et me rende digne de paraître devant sa face au plus vite. Faites célébrer les messes prescrites par les constitutions, sans retard, afin que je ne traîne pas une seconde de plus en purgatoire. Mais la face de Dieu, voilà mon désir, l'aspiration fondamentale de ma vie. Oui, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Tous, je vous embrasse et vous bénis, vous redisant à chacun mon amour et ma gratitude pour ce que vous avez été pour moi, chacun et chacune à votre niveau. Merci pour les joies et les peines partagées. Continuons nos dialogues de fraternité et d'amitié maintenant que je suis dans le sein du Père, in sino patris. Je peux beaucoup pour vous tous que j'aime si fort. Au revoir, bien-aimés. N'oubliez pas notre rendez-vous au ciel, autour de Jésus et de Marie. Oui, au revoir au ciel. Je vous bénis. Et c'est signé Petit Frère Michel-Marie de la Croix. Petit Frère de la Croix. Dans une lettre du 16 août 1997 au Petit Frère Nelson de la Vierge de l'Assomption, 16 août dernier donc, à l'occasion des retrouvailles où le petit frère Nelson de la Vierge de l'Assomption a prononcé ses vœux perpétuels à la fin de la célébration eucharistique, le père Michel avait demandé de lire une lettre à l'Assemblée. Et le frère Nelson a accepté avec joie, car il trouvait que ça convenait très bien d'entendre le fondateur adresser la parole en ces moments à ses moines, alors qu'il vivait des événements si importants pour toute la communauté, ainsi que pour tous ceux et celles, les parents, les amis, les bienfaiteurs qui étaient présents. Et le frère Nelson a tenu aussi à la publier pour tous ceux et celles qui n'étaient pas présents au monastère en ce jour de fête. On peut constater à la lecture qu'il y a un lien avec le message que le père Michel avait donné à son frère Bruno environ un mois auparavant. Mais encore une fois, voici intégralement la lettre que le frère Nelson a conservée avec soin. C'est très simple et très fraternel, vous verrez. Bonjour, mes amis. Il y a un proverbe qui dit que celui qui réussit à traverser un brouillard réussira beaucoup de choses dans la vie. J'ose croire que cela s'appliquera à vous tous qui avez traversé le brouillard de ce matin pour vous joindre à vos petits frères sur la Sainte Montagne de Sainte Agnès, afin de rendre grâce au Seigneur pour l'engagement définitif du petit frère Nelson au service de l'amour et pour les 17 années d'existence de notre petite famille monastique, malgré les épreuves et les difficultés normales de la vie d'une fondation de communauté religieuse. Nous remercions aussi le Seigneur Jésus et sa Mère Immaculée pour notre petit frère prieur, si dévoué, si généreusement livré à sa tâche. Merci à tous d'être là. Je veux dire encore un merci bien sincère à toutes les personnes ici présentes et absentes qui m'ont soutenu dans ma mission de fondateur depuis Valcartier jusqu'à maintenant. Je tiens aussi à remercier les personnes aimées qui m'ont apporté leur soutien de toute façon et qui sont maintenant rappelées au sein du Père. Georges et Rachel Bergeron, Adrienne Cloutier, mon père, Charles-Henri, Omer Patry, Sœur Corinne Cloutier, Martin Laure, Sœur Fernande Fizet et tant d'autres. Comme on voit, il est d'une simplicité absolument admirable. Il n'y a pas de complications chez lui. Les premières funérailles, comme je vous ai dit, ont eu lieu le 28 août, en la fête de Saint-Augustin, dans la paroisse où Père Michel a grandi, où demeure encore sa famille. Voici les paroles de l'archevêque Mgr Maurice Couture. Il était convenu avec le petit frère prieur, dit Monseigneur, que c'est lui qui ferait l'homélie, et c'est pourquoi je me permets, comme il est normal, je pense, d'exprimer les condoléances de l'Église de Québec, plus particulièrement de mes collègues évêques, tout d'abord à la famille du frère Michel, et puis à sa famille spirituelle des petits frères de la Croix qui sont ici ce matin. Je voudrais dire à cette assemblée réunie ici aujourd'hui, comment je suis conscient de ce que le frère Michel a apporté à notre Église. Cela se traduit par une peine qui n'en est qu'accentuée, mais je voudrais surtout que notre prière en soit une d'action de grâce. La mission du frère Michel a été écourtée à nos yeux humains par la maladie qui l'a frappé. mais on ne mesure pas encore totalement ce qu'il a pu apporter à la vie de notre Église, particulièrement en raison de son rôle au renouveau charismatique. Et d'une façon peut-être encore plus visible et plus récente, comme fondateur d'une communauté monastique des petits frères de la Croix. Notre prière en sera donc une d'action de grâce pour ce don qui a été fait à l'Église dans ce charisme du frère Michel, charisme de la prière, charisme de l'enseignement. Et Mgr Couture a poursuivi donc son introduction à la célébration. En donnant la signification des rites des funérailles, il a dit « Près du cercueil, oui, près du cercueil, vous apercevez le cierge pascal. Cette lumière, symbole de la présence du Christ parmi nous, du Christ ressuscité. Or, on peut y voir également le symbole de la lumière que le frère Michel a apporté par son enseignement. » Quel enseignement admirable il avait. Ah, j'ai écouté plusieurs de ses cassettes ces jours-ci. J'en suis demeuré presque pantois à certains moments devant son enthousiasme et sa passion à livrer le message de l'amour de Dieu pour nous. Quel homme admirable nous avons eu, ici, parmi nous, dans la région de Québec. Mgr Couture continue en disant, « Il était bien normal que la croix figure auprès de son cercueil, puisqu'il a fondé les petits frères de la croix. » Oui, la croix glorieuse, il a voulu qu'elle soit donnée en héritage à la famille spirituelle qu'il a fondée. Elle a marqué aussi sa vie, la croix. Une croix qui l'a marquée par la souffrance physique, par la souffrance morale aussi, que représentaient les séquelles de sa maladie terrible. Et enfin, le petit frère prieur, celui qui a hérité de la direction de la famille spirituelle, ira déposer sur le cercueil l'étole. Oui, l'étole qui rappelle le ministère accompli par le frère Michel, prêtre. Et Dieu sait avec quelle ferveur, avec quel dévouement, avec quel désir de servir son Église et de servir le Christ dans le sacerdoce qu'il lui avait légué. Voilà les belles paroles de Mgr Couture, archevêque de Québec, Maurice Couture, lors des funérailles qui ont eu lieu les premières funérailles dans la paroisse où le père Michel a grandi. Le père Michel Verret, Michel-Marie de la Croix, petit frère de la Croix, fondateur du monastère magnifique de Sainte-Agnès, a eu donc ses funérailles au mois d'août 1997, et le petit frère Prière, qui lui a succédé, a déclaré, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange, oui. Les lectures de la parole de Dieu que Père Michel a choisi lui-même pour cette Eucharistie, de ses funérailles, nous place face à la réalité constante de sa vie. Vivre d'amour à l'image de Jésus, le modèle unique et l'unique sauveur du monde. » Je répète parce que c'est essentiel. Vivre d'amour à l'image de Jésus, le modèle unique et l'unique sauveur du monde. C'est toujours Jésus que l'on voit vivre dans les vies des saints. C'est Jésus. Nous sommes centrés sur lui. C'est pour ça que l'Église canonise des saints. C'est pour nous rappeler que Jésus est toujours présent et vivant en nous. Le petit frère prieur ajoute, nous pourrions croire que tout est fini pour lui maintenant. Bien sûr que non. Nous savons que la vie du juste est dans la main de Dieu et que désormais il portera du fruit encore davantage. Or, dans la foi, nous croyons que la mort n'est pas le dernier mot de la vie. Après notre mort, il y a la vie éternelle qui nous unit à Dieu et à tous les autres fidèles défunts dans un amour sans limite, sans fin et sans frontières. Voilà, Père Michel, que tu entres dans la bienheureuse éternité à laquelle tu aspirais de tout ton être de baptisé, de prêtre et de moine. Tu as fondé, tu as demandé que soit ouvert l'évangile du prologue de Saint Jean pendant tout le temps où tu serais exposé au salon funéraire au monastère. Le prologue de Saint Jean, vous le connaissez, hein? C'est ce qu'on appelait le dernier évangile à la fin de la messe, autrefois avant le concile. C'est si beau, le prologue de Saint Jean. Si beau. Or, dit le prieur, le petit frère prieur, or, je me suis demandé, pourquoi cette page d'Évangile en particulier, le prologue de Saint Jean, c'est un texte de la parole de Dieu qui a toujours rempli de joie et de lumière ton cœur, je le sais bien, en considérant que le Verbe de Dieu s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous. Oui, le Verbe de Dieu, tu as toujours fait le lien entre Jésus et l'Eucharistie, ce grand sacrement de l'amour que nous célébrons et adorons chaque jour au monastère. Mais un passage m'a aussi rejoint en pensant à toi, Père Michel, où il est dit, « Un homme fut envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Et cet homme fut le témoin fidèle de la lumière qu'est Jésus. Il était une petite lampe qui éclaire dans la nuit de ce monde, et beaucoup se sont réjouis à sa lumière. Or, je me disais aussi, « Un homme fut envoyé par Dieu. Son nom était Michel. Il a eu une vie bien remplie, une vie où il en a fait du millage. » Toujours ses bagages prêts à partir pour rendre service à Dieu et aux hommes, aux frères et aux sœurs. Tellement qu'il a usé ses forces à la tâche qui lui était confiée par Dieu. Au Père Michel est né le 24 avril 1939, ici à Québec, dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Dès son jeune âge, Michel voulait être prêtre près de Jésus. À 6 ans, dans cette paroisse de Loretteville, où il a grandi, sa mère l'avait bien préparé à faire sa première communion, la messe de minuit. Elle lui avait dit, écoutez bien ça, c'est charmant, elle lui avait bien dit de demander 3 grâces au Seigneur lorsqu'il recevrait Jésus pour la première fois dans son cœur à la messe de minuit de Noël. Revenu à la maison après la messe de minuit, sa mère lui demande, quelles sont les grâces que tu as demandées au Seigneur? Et Michel Verret répond, bien spontanément, comme un petit enfant, les 3 mêmes. Je veux être prêtre. Je veux être prêtre. Je veux être prêtre. Or, il va entreprendre ses études élémentaires à Loretteville, ses études secondaires au séminaire Saint-François, ses études classiques au séminaire des Saints-Apôtres à la Prairie, à Montréal, oui, les Saints-Apôtres. En 59, il entre au noviciat de la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale à la Pointe-du-Lac, où il fait profession l'année suivante. Puis après les études en philosophie, il est envoyé à Rome, où il va faire ses études théologiques à la Grégorienne pendant 4 ans, pendant le Concile. Et de retour à Québec, il fait une année d'études pastorales à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, où il est ordonné prêtre à Loretteville le 4 juin 1966. Il est appelé par la suite au ministère presbytéral à la paroisse Saint-Malo de Québec, à Saint-Charles-Garnier de Sillery, puis durant cette année, il a œuvré principalement auprès des jeunes, dans les écoles, le mouvement scout, auprès des groupes de motards et de hippies de l'époque. Il a été aussi aumônier militaire à la base de Valcartier. Il a prêché plusieurs retraites dans des communautés religieuses et des paroisses. Il a fondé l'Association des Frères et Sœurs de Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus, un mouvement spiritualité thérésienne, regroupant plus de 6 000 personnes un peu partout dans le monde. Puis il s'est impliqué, je le répète, dans le mouvement du renouveau charismatique à Québec et dans plusieurs régions du Québec, entre autres dans le diocèse de Baie-Comeau, ainsi que dans les congrès régionaux et provinciaux. Il a participé aux activités de la rencontre de la Maison du renouveau charismatique. Il a aussi écrit des articles pendant plusieurs années dans la revue « Je crois ». Il a fondé le mouvement d'évangélisation des jeunes, par les jeunes, sous le nom de Pas de chair, pas d'eau, O.S., ou Pados, si vous voulez, regroupant plusieurs jeunes à Québec. Il a fondé la fraternité des couples Jésus Caritas, qui existe toujours à Québec. Mais c'est là qu'en 73, il a obtenu d'aller en ermitage. Puis à l'épreuve de la maladie, il s'est livré au sommet de l'amour. Le 23 août 1997, le Seigneur l'a rappelé à lui. Il a vécu plusieurs morts, pourrait-on dire. Il a été un prêtre au cœur de feu durant ses études à Rome. Le pape Paul VI lui disait cette parole en le regardant droit dans les yeux. Vous savez, jeune homme, il y a beaucoup de savants et de grands théologiens dans l'Église. Mais il lui manque des saints. Vous devez être un saint. Je crois bien que la mission a été accomplie. Il a été, je le crois bien, un saint. Je l'ai vu, Je l'ai rencontré à Sainte-Agnès. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé. Et je vous rappelle qu'on peut aller dans ce monastère des Petits Frères de la Croix à l'hôtellerie.